La Terre qui meurt, de René Bazin. Chapitre 1er. La Fromentière.
Bah, tu te taire, Barouge. Tu reconnais donc pas les gens d'ici?
Le chien, un batteur de vin race mêlé, aux poils gris floconneux, qui s'achevait en mèche fauve sur le devant des pattes, cessa aussitôt d'aboyer à la barrière, suivi en trottant la bordure d'herbe qui cernait le champ, et satisfait du devoir accompli, s'assit à l'extrémité de la rangée de choux qu'effeuillait le métayer. Par le même chemin, un homme s'approchait, la tête au vent, guettré, vêtu de vieux velours à côtes de teinte foncée. Il avait l'allure égale et directe des marcheurs de profession, ses traits tirés et pâles dans le collier de barbe noire, ses yeux qui faisaient par habitude le tour des haies et ne se posaient guère, disaient la fatigue, la défiance, l'autorité contestée d'un délégué du maître. C'était le garde régisseur du marquis de la Fromentière. Il s'arrêta derrière Barouge, dont les paupières eurent un clignement furtif, dont l'oreille ne remua même pas. « Eh, bonjour, Lumino, bonjour. »«
J'ai à vous parler, monsieur le marquis a écrit. »
Sans doute, il espérait que le métayer viendrait à lui. Il n'en fut rien. Le paysan maraîchin, ployé en deux, tenant une brassée de feuilles vertes, considérait de côté le garde immobile à 30 pas de là, dans l'herbe de la chintre. Que lui voulait-on? Sur ses joues pleines, un sourire s'ébaucha. Ses yeux clairs, dans l'enfoncement de l'orbite, s'allongèrent. Pour affirmer son indépendance, il se remit à travailler un moment sans répondre. Il se sentait sur le sol qu'il considérait comme son bien, que sa race cultivait en vertu d'un contrat indéfiniment renouvelé. Autour de lui, ses choux formaient un carré immense, houle pesante et superbe, dont la couleur était faite de tous les verts, de tous les bleus, de tous les violets ensemble et des reflets que multipliait le soleil déclinant. Bien qu'il fût de très haute taille, le métayer plongeait comme un navire jusqu'à mi-corps dans cette mer compacte et vivante. On ne voyait au-dessus que sa veste courte et son chapeau de feutre rond posé en arrière, d'où pendaient deux rubans de velours à la mode du pays. Et quand il eut marqué par un temps de silence et de labeur la supériorité d'un chef de ferme sur un employé à gage, il se redressa et dit « Vous pouvez causer, il n'y a ici que mon chien et moi. » L'homme répondit avec humeur. « Monsieur le marquis n'est pas content que vous n'ayez pas payé à la Saint-Jean. Ça fait bientôt 3 mois de retard. » « Il sait pourtant que j'ai perdu 2 bœufs cette année, que le froment ne vaut sous et qu'il faut bien qu'on vive, moi, mes fils et les créatures. » Par les créatures, il désignait, comme font souvent les maraîchins, ses 2 filles, Éléonore et Marie-Rose. « Ta, ta, ta !» reprit le garde. « Ce n'est pas des explications que vous demande, monsieur le marquis, mon bonhomme, c'est de l'argent. » Le métayer leva les épaules. « Il n'en demanderait pas, s'il était là, dans sa Fromentière. Je lui ferais entendre raison. Lui et moi, nous étions amis, je peux dire, et son père avec le mien. Je lui montrerais le changement qui s'est produit chez moi depuis les temps. Il comprendrait. Mais voilà, on n'a plus affaire qu'à des gens qui ne sont pas les maîtres. On ne le voit plus, lui, et d'aucuns disent qu'on ne le reverra jamais. » Le dommage est grand pour nous.
Possible, fit l'autre. Mais je n'ai pas à discuter les ordres. Quand paierez-vous?
C'est vite demandé. Quand paierez-vous? Mais trouver l'argent, c'est autre chose.
Alors je répondrai non.
Vous répondrez oui, puisqu'il le faut. Je paierai à la Saint-Michel, qui n'est pas loin.
Le métayer allait se baisser pour reprendre son travail, quand le garde ajouta.
Vous ferez bien aussi, Lumino, de surveiller votre valet.
J'ai relevé l'autre jour dans la pièce de la caïterie des collets, qui ne pouvaient être que de lui.
Est-ce qu'il avait écrit son nom dessus?
Non, mais il est connu pour le plus enragé chasseur du pays, gare à vous.
Monsieur le marquis m'a écrit que toute la maison partirait, si je vous reprenais les uns ou les autres à braconner.
Le paysan laissa tomber sa brassée de choux et tendant les 2 poings.
Menteur, il n'a pas pu dire ça, je le connais mieux que vous, et il me connaît.
Et ce n'est pas à des gars de votre espèce qu'il donnerait des commissions pareilles.
Monsieur le marquis me renverrait de chez lui, moi, son vieux Lumino.
Allons donc.
Parfaitement, il l'a écrit.
Menteur, répéta le paysan.
Que voulez-vous, on verra bien,
dit le régisseur en se détournant pour continuer son chemin.
Vous êtes averti. Ce Jean Nesmi vous jouera un vilain tour. Sans compter qu'il courtise un peu trop votre fille.
Lui, un failli gars du bocage. On en cause, vous savez.
Rouge, la poitrine tendue en avant, enfonçant d'un coup de poing son chapeau sur sa tête, le métayer fit 3 pas, comme pour courir sus à l'homme qui l'insultait. Mais déjà celui-ci, appuyé sur son bâton d'épine, avait repris sa marche, et son profil ennuyé s'éloignait le long de la haie. Il avait une certaine crainte de ce grand vieux dont la force était encore redoutable. Il avait surtout le sentiment de l'insuccès de ses menaces, le souvenir d'avoir été désavoué, plusieurs fois déjà, par le marquis d'Affromentière, le maître commun, dont il ne s'expliquait pas l'indulgence envers la famille des Lumineaux. Le paysan s'arrêta donc, et suivit du regard la silhouette diminuante du garde. Il le vit passer l'échalier, du côté opposé à la barrière, sauter dans le chemin et disparaître à gauche de la ferme, dans les sentes vertes qui menaient au château. Quand il l'eut perdu de vue... « Non, reprit-il tout haut, non, le marquis n'a pas dit ça, nous chasser !» En ce moment, il oubliait les mauvais propos que l'homme avait tenus contre Marie-Rose, la fille cadette, pour ne songer qu'à cette menace de renvoi, qui le troublait tout entier. Lentement, il promena autour de lui ses yeux devenus plus rudes que de coutume, comme pour prendre à témoin les choses familières que le garde avait menti. Puis il se baissa pour travailler. Le soleil était déjà penché. Il allait atteindre la ligne d'ormeaux qui bordait le champ vers l'ouest, tiges émondées, courbées par le vent de mer, terminées par une touffe de feuilles en couronne qui les faisait ressembler à de grandes reines marguerites. On était au commencement de septembre, à cette heure du soir où des bouffées de chaleur traversent le frais nocturne qui descend. Le métayer travaillait vite et sans arrêt comme un homme jeune. Il étendait la main, et les feuilles, avec un bruit de verre brisé, cassaient au ras des troncs de choux et s'amoncelaient sous la voûte obscure qui couvrait les sillons. Il était plongé dans cette ombre, d'où montait la laine moite de la terre, perdue au milieu de ses larges palmes veloutées, toutes molles de chaleur, que soutenaient des nervures striées de pourpre. En vérité, il faisait partie de cette végétation, et il lui fallut chercher, pour discerner le dos de sa veste dans le moutonnement vert et bleu de son champ. Il disparaissait presque. Cependant, si près qu'il fût du sol par son corps tout ployé, il avait une âme agissante et songeuse, et en travaillant, il continuait de raisonner sur les choses de la vie. L'irritation qu'il avait ressentie des menaces du garde s'atténuait. Il n'avait qu'à se souvenir, pour ne rien craindre du marquis de la Fromentière. N'étaient-ils pas tous deux de noblesse et ne le savaient-ils pas l'un et l'autre? Car le métayer descendait d'un lumineux de la Grande Guerre. Et bien qu'il ne parlât jamais de ses aventures anciennes, à cause des temps qui avaient changé, ni les nobles ni les paysans n'ignoraient que l'aïeul, un géant surnommé Brin d'Amour, avait conduit jadis dans sa yole à travers les marais de Vendée les généraux de l'insurrection, et fait des coups d'éclat, et reçu un sabre d'honneur, qu'à présent la rouille rongeait derrière une armoire de la ferme. Sa famille était une des plus profondément enracinées dans le pays. Il cousinait avec 30 fermes, répandues dans le territoire qui s'étend de Saint-Gilles à l'île de Boin et qui forme le marais. Ni lui ni personne n'aurait pu dire à quelle époque ses pères avaient commencé à cultiver les champs de la Fromentière. On était là sur parole, depuis des siècles, marquis d'un côté, lumineux de l'autre, liés par l'habitude, comprenant la campagne et l'aimant de la même façon, buvant ensemble le vin du terroir quand on se rencontrait, n'ayant ni les uns ni les autres la pensée qu'on pût quitter les deux maisons voisines, le château et la ferme, qui portaient le même nom. Et certes, l'étonnement avait été grand. Lorsque le dernier marquis, M. Henri, un homme de 40 ans, plus chasseur, plus buveur, plus rustre qu'aucun de ses ancêtres, avait dit à Toussaint Lumineux, voilà 8 ans, un matin de Noël, qu'il tombait du Grésil, « Mon Toussaint, je m'en vais habiter Paris. Ma femme ne peut pas s'habituer ici. C'est trop triste pour elle et trop froid. Mais ne te mets pas en peine, sois tranquille, je reviendrai. » Il n'était plus revenu qu'à de rares occasions, pour une journée ou deux. Mais il n'avait pas oublié le passé, n'est-ce pas? Il était demeuré le maître bourru et serviable qu'on avait connu, et le garde mentait en parlant de renvoi. Non. Plus Toussaint Lumineux réfléchissait, moins il croyait qu'un maître si riche, si volontiers prodigue, si bonhomme au fond, eût pu écrire des mots pareils. Seulement, il faudrait payer. Eh bien, on paierait. Le métayer n'avait pas 200 francs d'argent comptant dans le coffre de noyer près de son lit. Mais les enfants étaient riches de plus de 2 000 francs chacun, qu'ils avaient hérité de leur mère. La Luminette, morte voilà 3 ans. Il demanderait donc à François, le fils cadet, de lui prêter ce qu'il fallait pour le mettre. François n'était point un enfant sans cœur, assurément, et il ne laisserait pas le père dans l'embarras. Une fois de plus, l'incertitude du lendemain s'évanouirait, et les récoltes viendraient, une belle année, qui rétablirait la joie dans le cœur de tous. Là, de demeurer courbé, le métayer se redressa, passa sur son visage en sueur le bord de sa manche de laine, puis regarda le toit de sa fromentière avec l'attention de ceux qui ont tout leur amour devant eux. Pour s'essuyer le front, il avait ôté son chapeau. Dans le rayon oblique, qui déjà ne touchait plus les herbes ni les choux, dans la lumière affaiblie et apaisée comme une vieille essoreuse, il levait son visage ferme de lignes et solidement taillé. Son teint n'était point terreux comme celui des paysans parcimonieux de certaines provinces, mais éclatant et nourri. Les joues pleines que bordait une étroite ligne de favoris, le nez droit et large du bas, la mâchoire carrée, tout le masque enfin, et aussi les yeux gris clairs, les yeux vifs, qui n'hésitaient jamais à regarder en face, disaient la santé, la force, et l'habitude du commandement, tandis que les lèvres tombantes, longues, fines malgré le hâle, laissaient deviner la parole facile, et l'humeur un peu haute d'un homme du marais, qui n'estime guère tout ce qui n'est point chez lui. Les cheveux tout blancs, incultes, légers, formaient bourrelets et luisaient au-dessus de l'oreille. Ainsi découvert et immobile dans le jour finissant, il avait grand air, le métayer de la fromentière, et l'on comprenait le surnom, la seigneurie, comme ils disent, dont on usait pour lui. On l'appelait Lumineux l'évêque, pour le distinguer des autres du même nom, Lumineux le pauvre, Lumineux barbe fine, Lumineux tournevire. Il considérait de loin sa fromentière. Entre les troncs des ormes, à plusieurs centaines de mètres au sud, le rose lavé et pâle des tuiles s'encadrait en émaux irréguliers. Le vent apportait le mugissement du bétail qui rentrait, l'odeur des étables, celle de la camomille et des fenouilles qui foisonnaient dans l'air. Toute l'image de sa ferme se levait pour moins que cela dans l'âme du métayer. En voyant la lueur dernière de son toit dans le couchant du jour, il nomma les deux fils et les deux filles qu'abritaient la maison. Mathurin, François, Éléonore, Marie-Rose, lourde charge, épreuve et douceur mêlées de sa vie. L'aîné, son superbe aîné, atteint par le malheur, infirme, condamné à n'être que le témoin douloureux du travail des autres. Éléonore qui remplaçait la mère morte. François, nature molle, en qui n'apparaissait qu'incertain et incomplet le futur maître de la ferme. Rosie, la plus jeune, la petite de 20 ans. Est-ce que le garde avait encore fait une menterie en parlant des assiduités du valet? C'était probable. Comment un valet, le fils d'une pauvre veuve du bocage, de la terre lourde là-bas, aurait-il osé courtiser la fille d'un métayer maraîchin? De l'amitié, il pouvait en avoir, et du respect pour cette jolie fille dont on remarquait le visage rose, oui, lorsqu'elle revenait le dimanche de la messe de Salertaine, mais autre chose? Enfin, on veillerait. Toussaint Lumineux ne pensa qu'un instant à cette mauvaise parole que l'homme avait dite, et tout de suite après il songea, avec une douceur et un apaisement de cœur, à l'unique absent, au fils qui, par la naissance, précédait Rosie, André, le chasseur d'Afrique, qui avait suivi comme ordonnance en Algérie son colonel, un frère du marquis de la Fromentière. Ce dernier fils, avant un mois, il rentrerait, libéré du service. On le verrait, le beau maraîchin blond, aux longues jambes, portrait du père rajeuni, tout noble, tout vibrant d'amour pour le pays de Salertaine et pour la Métairie. Et les inquiétudes s'oublieraient, et se fondraient dans le bonheur de retrouver celui qui faisait se détourner les dames de Chaland quand il passait, et dire « C'est le beau gars dernier des Lumineux ». Le métayer demeurait ainsi, bien souvent, après le travail fini, en contemplation devant sa métairie. Cette fois, il resta debout plus longtemps que de coutume, au milieu des houles fuyantes des feuilles, devenues ternes, grisâtres, pareilles dans l'ombre à des guérets nouveaux. Les arbres même n'étaient plus que des fumées vagues autour des champs. Le grand carré de ciel, extrêmement pur, qui s'ouvrait au-dessus, tout plein de rayons brisés, ne laissait tomber sur les choses qu'un peu de poussière de jour qui les montrait encore, mais ne les éclairait plus. Lumineux mit ses deux mains en porte-voix devant sa bouche et, tourné vers la fromentière, héla. « Ohé, Rosie !» Le premier qui répondit à l'appel fut le chien, Barouge, accouru comme une trombe à l'extrémité de la pièce. Puis, une voix nette, jeune, s'éleva au loin et traversa l'espace. « Père, on y va !» Aussitôt le paysan se courba, saisit une corde dont il entoura et serra un monceau de feuilles cueillies, et chargeant le fardeau d'un coup d'épaule, chancelant sous la pesée de l'énorme botte qui dépassait de toutes parts son échine, ses bras relevés, sa tête enfoncée dans la moisson molle, il suivit le sillon, tourna, et descendit par la piste qu'avaient tracée dans l'herbe les pieds des gens et des bêtes. Au moment où il arrivait au coin du champ, devant une brèche de la haie,
Une forme svelte de toute jeune fille se dressa dans le clair de la trouée. « Bonsoir, père, » dit-elle. Il ne put s'empêcher de songer aux mauvais propos qu'avait tenus le garde et ne répondit pas. Marie-Rose, les deux poings sur les hanches, remuant sa petite tête comme si elle pensait des choses graves, le regarda s'éloigner. Puis elle entra dans les sillons, ramassa le reste des feuilles laissées à terre, les noua avec la corde qu'elle avait apportée, et comme avait fait le père, souleva la masse verte. Elle s'en alla, courbée, rapide pourtant, le long de la chintre. Pénétrée dans le champ, rassembler et lier les feuilles, cela lui avait bien demandé 10 minutes. Le père devait être rentré. Elle approchait de l'échalier quand, tout à coup, du haut du talus dont elle suivait le pied, un sifflement sortit, comme celui d'un vanneau. Elle n'eut pas peur. Un homme sautait dans le champ par-dessus les ronces. Rousy, devant elle, dans la voyette, jeta sa charge. Il ne s'avança pas plus loin, ils se mirent à se parler par phrases brèves. « Oh, Rousy, comme vous portez lourd !»« Je suis forte, allez !»« Avez-vous vu le père ?»« Non, j'arrive. Est-ce qu'il a parlé contre moi ?»« Il n'a rien dit. » Mais il m'a regardé d'une manière. « Croyez-moi, Jean, il se méfie. Vous ne devriez pas passer cette nuit dehors, car il n'aime guère la braconne, et il vous grondera. Qu'est-ce que ça peut lui faire que je chasse la nuit, si je travaille le matin d'aussi bonne heure que les autres? Est-ce que je rechigne à la besogne? Rousy, ceux de la Solière et aussi le meunier de Moxouris m'ont dit que les vanneaux commençaient à passer dans le marais. J'en tuerai la lune, qui sera claire cette nuit, et vous en aurez demain matin. Jean, vous ne devriez pas, je vous assure. » L'homme portait un fusil en bandoulière. Par-dessus sa veste brune, il avait une blouse très courte, qui descendait à peine à la ceinture. Il était jeune, petit, de la même taille à peu près que Rousy, très nerveux, très noir, avec des traits réguliers, pâles, que coupait une moustache à peine relevée au coin de la bouche. La couleur seule de son teint indiquait qu'il n'était pas né dans le marais, où la brume amollit et rosit la peau, mais en pays de terre dure, dans la misère des closeries ignorées. On pouvait deviner cependant, à son visage osseux et ramassé, à la ligne droite des sourcils, à la mobilité ardente des yeux, un fond d'énergie indomptable, une ténacité qu'aucune contradiction n'entamait. Pas un instant, les craintes de Marie-Rose ne le troublèrent. Un peu pour l'amour d'elle, beaucoup pour l'attrait de la chasse et de la maraude nocturne qui domine tant d'âmes primitives comme la sienne, il avait résolu d'aller chasser cette nuit dans le marais. Et rien ne lui fait céder, pas même l'idée de déplaire à Rousy. Celle-ci avait l'air d'une enfant, avec sa taille plate, sa fraîcheur de maraîchine, l'ovale plein de ses joues, la courbe pure du front que resserrait un peu sur les tempes de bandeaux bien lissés, ses lèvres droites, dont on ne savait si elle se redresserait pour rire ou s'abaisserait pour pleurer. Elle ressemblait à ces vierges grandissantes qui marchent dans les processions, portant une banderole. Seuls les yeux étaient d'une femme, ses yeux couleur de châtaigne mûre, de la même nuance que les cheveux, et où vivait ou luisait une tendresse toute jeune, mais sérieuse déjà, et digne, et comme sûre de durer. Sans le savoir, elle avait été aimée longtemps par ce valet de son père. Depuis un an, elle s'était secrètement engagée envers lui. Sous la coiffe de mousseline à fleurs, en forme de pyramide, qu'est celle de Salertaine, quand elle sortait de la messe, le dimanche, bien des fils de métayers, éleveurs de chevaux et de bœufs, la regardaient pour qu'elle les regardât. Elle ne faisait point attention à eux, s'étant promise à Jean Nesmy, un taciturne, un étranger, un pauvre, qui n'avait de place, d'autorité ou d'amitié que dans le cœur de cette petite. Déjà, elle lui obéissait. À la maison, il ne se disait rien. Dehors, quand il pouvait se joindre, il se parlait, toujours en hâte, à cause de la surveillance des frères, et de Mathurin surtout, l'infirme, terriblement rôdeur et jaloux. Cette fois encore, il ne fallait pas qu'on les surprît. Jean Nesmy, sans s'arrêter aux inquiétudes de Marie-Rose, demanda donc rapidement « Avez-vous tout apporté ?» Elle céda, sans insister davantage. « Oui, » dit-elle. Et fouillant dans la poche de sa robe, elle tira une bouteille de vin et une tranche de gros pain, puis elle tendit les deux objets, avec un sourire dont tout son visage, dans la nuit grise, fut éclairé. « Voilà, mon Jean, » fit-elle, « j'ai eu du mal. » Léonore est toujours à me guetter, et Mathurin me suit partout. » Sa voix chantait comme si elle lui dit « Je t'aime ». Elle ajouta « Quand reviendrez-vous ? » ?»« Au petit jour, par le verger clos. » En parlant, le jeune gars avait soulevé sa blouse et ouvert une musette de toile rapportée du régiment et pendue à son cou.
Il y plaça le vin et le pain. Occupé de ce détail, l'esprit concentré sur la chose du moment, il ne vit pas Rosie qui écoutait, penchée, une rumeur venue de la ferme. Quand il eut boutonné les deux boutons de la musette, la jeune fille écoutait encore. « Que vais-je répondre ? » dit-elle gravement. « Si le père demande après vous tout à l'heure, le voilà qui pousse la porte de la grange. » Jean Desmy toucha de la main son feutre sans galon et plus large que ceux du marais. Il eut un petit rire qui découvrit ses dents, blanches comme de la mie fraîche, et dit « Bonsoir, Rosie. Vous dire au père que je passe la nuit dehors pour apporter des vanneaux à ma bonne amie. » Il se détourna, d'un geste prompt, gravit le talus, sauta dans le champ voisin et une seconde seulement, le canon de son fusil trembla en s'éloignant parmi les branches. Toussaint Lumineux avait l'air soucieux et il se taisait. Son vieux visage, mâle et tranquille, contrastait étrangement avec la figure difforme de l'aîné Mathurin. Autrefois, ils s'étaient ressemblés. Mais depuis le malheur dont on ne parlait jamais et qui hantait toutes les mémoires à la Fromentière, le fils n'était plus que la caricature, la copie monstrueuse et souffrante du père. La tête, volumineuse, coiffée de cheveux roux, rentrait dans les épaules, elle-même relevée et épaissie. La largeur du buste, la longueur des bras et des mains dénonçaient une taille colossale. Mais quand ce géant se dressait, entre ses béquilles, on voyait un torse tout tassé, tout contourné, et deux jambes qui pendaient au-dessous, tordues et molles. Ce corps de lutteur se terminait par deux fuseaux atrophiés, capables au plus de le soutenir quelques secondes, et d'où la vie, peu à peu, sans répit, se retirait. Il avait à peine dépassé la trentaine, et déjà sa barbe, qu'il avait plantée jusqu'aux pommettes, grisonnait par endroits. Au milieu de cette broussaille étalée, qui rejoignait les cheveux et lui donnait un air de fauve, au-dessus des pommettes qu'un sang boueux marbrait, on découvrait deux yeux d'un bleu noir, petits, tristes ou éclatés par moments, tout à coup, la violence exaspérée de ce condamné à mort qui comptait chaque progrès du supplice. Une moitié de lui-même assistait avec une colère d'impuissance à la lente agonie de l'autre. Des rides sillonnaient le front et coupaient l'intervalle entre les sourcils. « Pauvre grand Lumineux, le plus beau fils de chez nous, ce qu'il est devenu !» disait la mère autrefois. Elle avait raison de le plaindre. 6 ans plus tôt, il était rentré du régiment, superbe comme il était parti. 3 ans de caserne avaient glissé, presque sans les entamer, sur sa nature toute paysanne et sauvage, sur ses rêves de labour et de moisson, sur les habitudes de croyant qu'il tenait de sa race. Le mépris inné de la ville avait tout défendu à la fois. On avait dit en le revoyant « L'aîné des Lumineux ne ressemble pas aux autres gars, il n'a pas changé. » Or, un soir, qu'il avait conduit un chargement de blé chez le minotier de Chaland, il revenait dans sa charrette vide. Près de lui, assis sur une pile de sacs, il écoutait rire une fille de Salertaine, Félicité Gauvry de La Seulière, dont il voulait faire sa femme. Les chemins commençaient à s'emplir d'ombre. Les ornières se confondaient avec les touffes d'herbe. Lui, cependant, tout occupé de sa bonne amie, sachant que le cheval connaissait la route, il ne tenait pas les guides qui tombèrent et traînèrent sur le sol. Et voici qu'au moment où il descendait un raidillon près de la Fromentière, le cheval, fouetté par une branche, prit le galop. La voiture, jetée d'un côté à l'autre, menaçait de verser, les roues s'enlevaient sur les talus. La fille voulait sauter. « N'aie pas peur, Félicité, laisse-moi faire !» cria le gars. Il se mit debout, et il s'élança en avant pour saisir le cheval au mort et l'arrêter. Mais l'obscurité, un chaos, le malheur enfin, le trompèrent. Il glissa le long du harnais. Deux cris partirent ensemble, de dessus la charrette et de dessous. La roue lui avait passé sur les jambes. Quand Félicité Gauvry put courir à lui, elle le vit qui essayait de se relever et qui ne pouvait pas. 8 mois durant, Mathurin Lumineux hurla de douleur. Puis la plainte s'éteignit, la souffrance devint lente, mais la mort s'était mise dans ses pieds, puis dans ses genoux, et elle ne le quittait pas. À présent, il tire la moitié de son corps derrière lui. Il rampe sur ses genoux et sur ses poignets devenus énormes. Il peut encore conduire une yole à la perche sur les canaux du marais, mais la marche l'épuise vite. Dans un chariot de bois, comme en ont les enfants des fermes pour jouer, son père ou son frère l'emmène aux champs éloignés où la charrue les précède et l'assiste, inutile, au travail pour lequel il était né, qu'il aime encore désespérément. Pauvre grand Lumineux, le plus beau fils de chez nous. Toute gaieté a disparu. L'âme s'est transformée comme le corps, elle s'est fermée, Il est dur, il est soupçonneux, il est méchant. Ses frères et ses sœurs cachent leur moindre démarche à cet homme, pour qui le bonheur des autres est un défi à son mal. Il redoute son habileté à découvrir les projets d'amour, sa perfidie qui cherche à les rompre. Celui qui ne sera pas aimé ne veut pas qu'on aime. Il ne veut pas surtout qu'un autre prenne la place qui lui revenait de droit en sa qualité d'aîné, celle de futur maître, de successeur du père dans le commandement de la métairie. Pour cette raison, il jalouse François, et plus encore André, le beau chasseur d'Afrique, le préféré du père. Il jalouse même le valet qui pourrait devenir dangereux s'il épousait Rosie. Mathurin Lumineau dit quelquefois « Si je guérissais, il me semble que je suis mieux. » D'autres fois, une sorte de rage s'empare de lui. Pendant des jours, il reste muet, retiré dans les coins de la maison ou dans les étables, puis les larmes viennent et fondent sa colère. En de tels moments, un seul homme peut l'approcher, le père. Une seule chose attendre l'infirme, voir les champs de chez lui, les labours de ses bœufs, les semailles d'où naîtront les avoines et les blés, les horizons où il a connu la vie pleine. Depuis 6 ans que celle-ci l'a quitté, il n'a pas reparu dans le bourg de Salertaine, même pour ses Pâques qu'il ne fait plus. Jamais il n'a rencontré sur sa route Félicité Gauvry, de la Seulière. Seulement il demande quelquefois à Éléonore, « Entends-tu raconter qu'elle se marie? Est-elle belle toujours, comme au temps où j'avais ses amitiés ?» Lorsque Marie-Rose entra dans la salle de la fromentière, ce fut lui seul qu'elle regarda, elle a dérobé. Et il lui parut qu'il avait son mauvais rire et qu'il avait vu ou deviné la sortie du valet. « Voilà la soupe finie, » dit le métayer. « Allons, Mathurin, pique une tranche de lard avec moi. »« Non, c'est toujours la même chose chez nous. »« Et tant mieux, » répondit le père. « C'est bon, le lard, moi je l'aime. » Mais l'infirme, repoussant le plat et haussant les épaules, murmura. « L'autre vient d'être cher, à présent, pas vrai ?» Toussaint Lumineau fronça le sourcil au rappel de l'ancienne prospérité de la fromentière, mais il dit, sans se fâcher, « En effet, mon pauvre Mathurin, l'année est dure et la dépense est grosse. » Puis, voulant changer de sujet, « Est-ce que le valet n'est pas rentré ?» 3 voix, l'une après l'autre, répondirent, « Je ne l'ai pas vu, ni moi, ni moi. » Après un silence, pendant lequel tous les yeux se levèrent du côté de la cheminée, « Il faut demander cela à Rosie, » dit Éléonore. « Elle doit avoir des nouvelles. » La petite, à demi tournée vers la table, le reflet du feu dessinant sa silhouette, répondit « Sans doute, j'en ai. Je l'ai rencontré au tournant de la Virette de chez nous. Il va chasser. Encore ?» fit le métayer. « Il faudra pourtant que ça finisse. Le garde de monsieur le marquis, ce soir, comme je serrais mes choux, m'a fait reproche de son braconnage. Est-ce qu'il n'est pas libre d'aller au Vanneau ?» demanda Rosie. « Tout le monde y va. » Éléonore et François poussèrent un grognement de mépris pour marquer leur hostilité contre le boquin, l'étranger, l'ami de Rosie. Le père, rassuré par la pensée que le garde n'irait assurément pas troubler la chasse de Jean Nesmy dans le marais, terre neutre où chacun pille comme il lui plaît, les bandes d'oiseaux de passage, se pencha à nouveau au-dessus de l'assiette. François commençait à s'assoupir et ne mangeait plus. L'infirme buvait lentement, les yeux vagues devant lui, songeant peut-être à la chasse qu'il avait aimée lui aussi. Il y eut un moment de paix apparente. Le vent, par les fentes de la porte, entrait avec un sifflement doux, vent d'été, égal comme une marée. Les deux filles s'étaient assises au coin de la cheminée pour achever de souper avec une pomme qu'elles pelaient attentivement. Mais l'esprit du métayer avait été mis en marche par la conversation avec le garde et par le mot qu'avait dit tout à l'heure Mathurin, « C'est trop cher à présent. » L'ancien revoyait les années disparues, dont ses 4 enfants rassemblés là, témoins inégaux, n'avaient connu qu'une partie plus ou moins grande suivant l'âge. Tantôt il considérait Mathurin et tantôt François, comme s'il eût fait appel à leur mémoire de petits toucheurs de bœufs et pêcheurs d'anguilles. Il finit par dire, quand il eut l'âme trop pleine pour ne point parler, « La campagne d'ici a tout de même bien changé depuis les temps de monsieur le marquis. Te souviens-tu de lui, Mathurin ?»« Oui, » répondit la voix épaisse de l'infirme, « je me souviens. Un gros qui avait tout son sang dans la tête et qui criait en entrant chez nous, « Bonsoir les gars. Le papa a-t-il encore une vieille bouteille de muscadet dans le cellier ?»« Va l'acquérir, Mathurin. Ou toi, François ?» « Il était tout justement comme tu dis, » reprit le bonhomme avec un sourire attendri, « et il buvait bien.
On ne pouvait pas trouver de nobles moins fiers que les nôtres. Il racontait des histoires qui faisaient rire. Et puis riches, mes enfants. Ça ne les gênait pas d'attendre leur rente quand la récolte avait été mauvaise. Même, ils m'ont prêté plus d'une fois pour acheter des bœufs ou de la semence. C'étaient des gens vifs, par exemple, mais avec qui on s'entendait. Tandis que leurs hommes d'affaires... Il fit un geste violent de la main comme s'il jetait quelqu'un à terre. « Oui, » dit l'aîné, « du triste monde. » « Et mademoiselle Ambroisine ?»« Elle venait jouer avec toi, Éléonore, et surtout avec Rosie, car elle était pour l'âge entre Éléonore et Rosie. Mais avis qu'elle doit avoir 25 ans aujourd'hui. Avait-elle bon air, mon Dieu, avec ses dentelles, ses cheveux tournés comme ceux d'un saint d'église, son salut qu'elle faisait en riant à tout le monde quand elle passait dans sa lertaine? Quel malheur qu'ils aient quitté le pays. Il y en a qui ne les regrettent pas, mais moi, je ne suis pas de ceux-là. » L'infirme secoua sa crinière fauve et dit, de sa voix qui s'enflait à la moindre contradiction, « Est-ce qu'ils pouvaient faire autrement? Ils sont ruinés. »« Oh, ruinés, il faudrait voir. »« Vous n'avez qu'à voir le château, fermé depuis 8 ans comme une prison, qu'à écouter ce qu'on raconte. Tous leurs biens sont engagés. Le notaire ne se gêne pas de le dire. » Et vous verrez que la fromentière sera vendue et nous avec. Non, Mathurin, je ne verrai pas ça, Dieu merci. Je serai mort avant. Et puis nos nobles ne sont pas comme nous, mon garçon. Ils ont toujours des héritages qui leur arrivent, quand ils ont un peu mangé leur fond. Moi, j'ai meilleure espérance que toi. J'ai dans l'idée qu'un jour M. Henri rentrera dans son château et qu'il viendra là où tu es, avec sa main tendue. Bonjour, père Lumineau. Et aussi mademoiselle Ambroisine, qui sera si contente d'embrasser mes filles sur les deux joues à la maraîchine. Bonjour, Éléonore. Bonjour, Marie-Rose. Ça sera peut-être plus tôt que tu ne penses. Les yeux levés, fixant la plaque de la cheminée, l'ancien avait l'air d'apercevoir la fille de ses maîtres entre Éléonore et Rosie. Quelque chose de l'émotion qu'il eût éprouvée, un commencement de larmes mouillait ses paupières. Mais Mathurin frappa la table de son poing et tournant vers le père son visage hargneux. « Vous croyez donc qu'ils pensent à nous ? Ah bien non. S'ils y pensent, c'est à la Saint-Jean. Je parie que le garde, tantôt, vous a redemandé de payer. Le gueux n'a que ce mot à la bouche. » Toussaint Lumineau se recula sur le banc, réfléchit et dit à voix basse. « C'est vrai. Seulement on ne sait pas si les maîtres lui avaient commandé de parler comme il a fait, Mathurin. Il en invente souvent des paroles. Bon, bon, et qu'avez-vous répondu ? Que je paierai la Saint-Michel. Avec quoi ? » Depuis un moment, les deux filles s'étaient retirées dans la décharge, à gauche de la grande salle, et on entendait, venant de là, un bruit de vaisselle qu'on lavait et d'eau remuée. Les hommes restaient ainsi chaque soir entre eux et c'était l'heure où ils traitaient les affaires d'intérêt. Le métayer avait déjà emprunté l'année précédente au fils aîné la plus grosse part de l'argent qui revenait à celui-ci, dans l'héritage de la mère. Il ne pouvait donc espérer que l'assistance du cadet, mais il en doutait si peu qu'il répondit à demi-voix pour n'être pas entendu des femmes, « J'ai pensé que François nous aiderait. » Le cadet que la discussion avait tiré de sa somnolence répondit vivement, « Ah mais non, n'y comptez pas, ça ne se peut. » Il n'osait contredire en face et comme un écolier fixer le saule entre ses jambes. Cependant le père ne se fâcha pas, il dit doucement, « Je t'aurais remboursé François comme je rembourserais ton frère. Les années ne se ressemblent pas, la chance n'en reviendra. » Et il attendait, regardant la chevelure épaisse et frisée de son fils et ce cou de jeune taureau qui dépassait à peine la table. Mais l'autre devait avoir une résolution bien arrêtée, bien réfléchie, car la voix, assourdie par les vêtements où elle se perdait, reprit. « Père, je ne peux pas, ni Éléonore non plus. Notre argent est à nous, n'est-ce pas, et chacun libre de s'en servir comme il veut. Le nôtre est placé à 7 heures. Qu'est-ce que ça nous fait que le marquis attende 1 an, puisque vous dites qu'il est si riche ? Ce que ça nous fait, François ? » Alors seulement, la parole du père s'anima et devint autoritaire. Il ne s'emportait pas. Il se sentait plutôt blessé, comme s'il ne reconnaissait point son sang, comme s'il constatait subitement, sans le comprendre, le grand changement qui s'était fait d'une génération à l'autre, et il dit « Tu ne parles pas selon mon goût, François Lumineau. Moi, je tiens à payer ce que je dois. Je n'ai jamais reçu d'eux aucune injure. Moi, et aussi ta mère et aussi Mathurin, qui les a mieux connus que toi. Nous leur avons toujours porté respect, tu entends ? Ils peuvent dépenser leurs biens, ça ne nous regarde pas, ne pas payer. Mais sais-tu bien qu'ils pourraient nous renvoyer de la fromentière ?
Bah, fit le cadet, être ici ou ailleurs, pour ce que ça nous rapporte de cultiver la terre.
Un coup de feu retentit dans le marais, très loin, car le bruit arriva à la Fromentière plus faible que celui d'une amorce. Toussaint Lumineau l'entendit, et brusquement sa pensée se reporta vers l'homme qui chassait là-bas. En même temps, derrière lui, une voix s'éleva dans la cour.
« Voilà un vanneau de tuer pour la Rousie. »«
Tais-toi, Mathurin, » dit le père qui, sans se détourner, avait reconnu l'infirme.
« Ne fais pas contre elle des contes qui me déplaisent, tu le sais bien. J'ai assez de peine ce soir, mon ami, j'en ai assez, rapport à François. » Les béquilles, heurtant les cailloux de la cour, se rapprochèrent, et le métayer, à la hauteur de l'épaule, sentit le frôlement des cheveux de l'infirme qui se redressait le long de lui et qui levait la tête.
« Je ne dis que la vérité, père, » reprit à voix basse l'aîné.
« Et ce ne sont pas des contes. Ça me fait tourner le sang de voir ce boquin qui courtise ma sœur pour avoir une part de notre bien, pour être le maître chez nous, lui qui n'a rien chez lui. Il n'est que le temps de le mettre à la raison.
« Est-ce que tu crois vraiment ?» répondit le père en se penchant un peu. « Qu'une fille comme Rousie écouterait mon valet ? Est-ce qu'elle a de l'amitié pour lui, Mathurin ?»
Toussaint Lumineau avait la faiblesse d'ajouter foi trop facilement au jugement et aux dénonciations de son fils aîné. Même à présent que l'espérance de l'avoir pour successeur était finie, malgré tant de preuves acquises déjà de la violence et de la méchanceté maladive de l'infirme, l'influence de celui-ci était demeurée grande sur l'esprit du père. Le métayer entendit monter ces mots comme un souffle.
« Père, ils s'aiment tous deux. »
L'horreur de ce bonheur des autres avait soudainement déformé les traits de Mathurin. Toussaint Lumineau regarda la face levée vers lui, si blanche sous la lune. Il fut frappé de l'expression de souffrance qui contractait les traits du malade.
« Si vous les guettiez comme moi, » continua le fils, « vous verriez qu'ils ne se parlent jamais à la maison, mais que dehors ils s'en vont toujours par le même chemin. » Moi, je les ai surpris bien des fois, riant et causant comme des galants à qui les parents ont dit oui. Vous ne le connaissez pas, ce Jean Nesmi, il a de l'audace. Il vous fait croire qu'il aime la chasse, et je ne dis pas non. Mais l'aimer comme lui, je n'en ai pas vu d'autre. Est-ce pour son plaisir seulement qu'il va jusqu'au bout du marais tuer un couple de vanneaux? Qu'il attrape la fièvre à piquer des anguilles avec la fouine? Qu'il passe des nuits entières dehors après avoir travaillé le jour? Non, c'est pour Rousie, pour Rousie. « Pour Rousie !» La voix s'enflait et pouvait être entendue de la maison. « Je veillerai, mon garçon, » dit le père. « Ne te mets pas en peine. »«
Ah, si j'étais que vous, j'irais demain au petit jour sur le chemin du marais. Et si je les prenais ensemble... »«
Assez !» interrompit le métayer. « Tu ne te fais pas de bien à t'en parler, Mathurin.
Voilà Lionor qui te cherche. »
La fille aînée s'avançait, en effet, derrière eux. Comme d'habitude, elle venait pour aider Mathurin, qui remontait difficilement les marches du seuil et pour délasser les chaussures qu'il avait du mal à quitter. Dès qu'elle lui touchait le bras, il la suivit. Le bruit de béquilles et de pas mêlés s'éloigna. Le père demeura seul.
« Allons, » songea-t-il tout haut. « Si cela est vrai, je ne permettrai pas qu'on en rit longtemps dans le marais. »
Il aspira un grand coup d'air, comme s'il buvait une lampée de vin clairet. Puis, voulant s'assurer que Rousie n'était pas sortie, il rentra dans la maison par la porte du milieu, qui était celle de la chambre des filles. À l'intérieur, l'obscurité était grande. À peine un reflet de lune sur les cinq armoires en bois ciré qui ornaient l'appartement toujours propre et bien en ordre d'Éléonore et de Rousie. Le métayer à tâtons fit le tour de la grosse armoire de noyer qui avait été la dot de sa mère. Il traversa la pièce. Il allait entrer dans la décharge qui communiquait avec la salle où il couchait avec Mathurin, lorsque derrière lui, à l'angle d'un lit, une ombre se leva. «
Père ?»
Il s'arrêta. « C'est toi, Rousie ? Tu te couches ?»«
Non, je vous ai attendu. Je voulais vous dire quelque chose. »
Ils étaient séparés par toute la longueur de la chambre. Ils ne se voyaient pas.
« Puisque François ne peut pas vous donner son argent, j'ai pensé que je vous donnerais le mien. »
Le métayer répondit durement. « Tu n'as donc pas peur que je ne te le rende pas ?» La voix jeune, comme découragée par l'accueil et arrêtée dans l'élan, reprit en balbutiant.
« J'irai demain le chercher. Il est chez le neveu de la Michelonne. J'irai, pour sûr, et après-demain, vous l'aurez. »